1882, Charles quitte l'Afrique. Je déteste la vie de garnison, confesse-t-il. J'aime mieux, bien mieux, profiter de ma jeunesse en voyageant. De cette façon, au moins, je m'instruirai et je ne perdrai pas mon temps. Et il obéit à une sorte de première vocation. Il démissionne de l'armée et c'est la deuxième fois, rappelez-vous, qu'il démissionne puisqu'il l'avait fait une première fois en 1880, râlant devant son colonel qui le mettait au défi de ronger sa vie morale avec sa danseuse, rappelez-vous, qui faisait un petit peu la honte de son régiment à Alger. Et donc, il va démissionner à ce moment-là pour ne pas se séparer de sa maîtresse et puis tout simplement pour refuser d'obéir. Et là, c'est donc sa deuxième démission 2 ans plus tard, alors qu'il s'était réengagé pour suivre ses camarades au combat. Il démissionne pour une deuxième fois et l'officier se montre pressé, déterminé et au final impérieux. Il est quand même fidèle à son premier amour, à cette Afrique qui l'a littéralement envoûté. Il cède à un appel mystérieux qu'on peut voir comme un mélange de solitude, de couleur orientale et de respect pour ses humbles populations musulmanes qui ont la métaphysique à fleur de peau, comme le dit joliment Luc Adrian dans un article qui m'a aidé pour vous parler ce soir. Et de fait, il a révélé pendant cette opération militaire pour laquelle il s'était engagé une curiosité étonnante. Lorsque, à cheval, à Méhari, aussi sur les chameaux, puisqu'il n'était pas qu'à cheval dans cette Algérie de la fin du XIXe siècle, il découvre sur la carte un grand inconnu. Il voit à l'ouest, pardon, de l'Algérie, un pays qui est en pointillé, absolument sans aucun relief, sans aucune route, et il demande à ses camarades: mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il n'y a rien sur nos cartes? Et on lui explique que ce pays est totalement inconnu, que personne jamais n'a réussi à y rentré en sortant vivant, aucun occidental n'a réussi à raconter comment se dessinait très précisément la géographie de ce pays. Et alors, un projet complètement fou a germé à l'occasion de cette opération militaire dans le sud oranais, dans le cœur de Charles, c'est de faire la découverte que personne n'avait réussi à faire jusqu'ici, la découverte de ce pays. Autrement dit, il va se faire explorateur et l'officier va comprendre qu'il ne va pas pouvoir apparaître comme un explorateur occidental classique, encore moins comme un officier français. Et donc, il va s'agir pour lui de se déguiser. Et après avoir pris conseil à la bibliothèque d'Alger, où il va s'enfermer et révéler des talents de studiosité, de vertu, de studiosité, de courage, d'acharnement intellectuel hors du commun, il va apprendre le russe, il va apprendre l'hébreu pour se faire passer pour un juif russe, donc maîtrisant ces deux langues, en voyage, en pèlerinage, auprès de ses lointains cousins du Maroc. Et donc il bâtit tout un scénario qui suppose qu'il maîtrise un petit peu ces deux langues pour apparaître pendant des mois de voyage au Maroc comme un pauvre juif d'origine russe. Et donc, il va préparer minutieusement son travail, son aventure marocaine, avec des heures et des heures d'études en bibliothèque. Et ce grand voyage au Maroc restera incontestablement une des plus grandes aventures de sa vie. Ce serait dommage de faire d'aussi beaux voyages, bêtement et en simple touriste, avait-il dit avec humilité et de fait et humour, et de fait, il va le faire avec une audace et un scénario tout à fait bien travaillé. L'explorateur est né, le noceur que nous avions vu la dernière fois s'en est allé au soleil du Maghreb, et ce sera un long noviciat de sable et de cailloux à la rencontre de tribus aussi. Or, je vous rappelle qu'en 1883-1884, pendant cette année d'exploration au Maroc, il a simplement 25 ans. Et il révèle du coup une maturité intellectuelle, un courage, une subtilité vraiment incroyable. Sur les terres du sultan, explique-t-il, l'Européen peut circuler au grand jour et sans danger. Dans le reste du Maroc, il ne peut pénétrer que travesti et au péril de sa vie. Il y est regardé comme un espion et serait massacré s'il était reconnu. Autrement dit, ce n'est pas simplement le fait d'être bastonné et jeté dehors qui est une menace pendant un an pesant sur sa tête, mais c'est tout simplement le fait d'être tué. Donc le danger permanent, la soif de découverte, le dénuement volontaire vont forger un caractère qui ne demandait qu'à se révéler. Et ça, c'est assez fabuleux, parce qu'on a quitté la dernière fois un Foucault gros et gras, pensant que champagne et caviar, rappelez-vous, il se levait la nuit pour déguster les meilleurs caviars au foie gras. Et là, on découvre un héros capable de ciseler son âme par l'effort, à la fois physique et intellectuel. Autrement dit, nous sommes loin du Paris haussmannien durant le printemps 1884, près de Debbou, une piste serpente vers la frontière algérienne. Il est environ midi quand un voyageur, portant le costume traditionnel des Juifs marocains, est assailli par ses propres guides. Et la victime n'est autre que le vicomte Charles de Foucault. « Comme je marchais, dira-t-il, en tête de la caravane, je me sentis tout à coup tiré en arrière et jeté à bas de ma monture. » Et racontera-t-il dans « Reconnaissance au Maroc », qui sera le livre tiré de cette aventure, « L'explorateur a quitté Tanger, voici 11 mois déjà. Il a pris la précaution de rédiger son testament et à ce moment périlleux de son expédition, où sa vie ne tient plus qu'à un fil, il doit se demander s'il reviendra un jour à Paris présenter ses travaux devant la prestigieuse Société de géographie. Et peut-être va-t-il mourir pour rien, et loin du tout. Mais qu'importe. Il est solidaire de tous les découvreurs de son temps, et il y en a beaucoup qui partent en Afrique, qui partent en Orient, qui partent jusqu'au pôle. Lui, ce qui l'attire, c'est vraiment ce Maroc. On me laissa comme sans valeur les seules choses auxquelles je tinsse, mes notes et mes instruments, précise Charles. J'étais sans armes, un revolver était dans mon bagage, il m'avait été pris. Que faire seul dans le désert, au milieu de tribus où tout étranger est un ennemi? Il n'y avait qu'un parti à prendre, la patience, et elle m'a réussi. Et cette confidence est intéressante pour donner un ordre d'idée de la mentalité qui était la sienne au sein même d'une petite aventure, d'un petit épisode qui aurait pu lui coûter très cher. Et la patience au Maroc va de pair avec la ruse. Charles voyage incognito. Durant mon voyage, mon costume fut celui des Juifs marocains, donc d'origine, comme je vous le disais, russe, ma religion la leur, mon nom le rabbin Joseph. C'est un petit clin d'œil à l'année Saint-Joseph qui est la nôtre aujourd'hui. Je priais et je chantais à la synagogue, les parents me suppliaient de bénir leurs enfants, dira-t-il. Et ce travestissement, on le doute, va être synonyme de 1000 contraintes et va durer près d'un an. Les mentors de la Société de géographie admireront le subterfuge à son retour en disant « Il a accompli ce voyage d'exploration sans l'aide du gouvernement, précise Henri Duverrier, à ses frais, en faisant le sacrifice de sa carrière militaire. Il s'est résigné à voyager sous le travestissement du juif au milieu de populations qui considéraient le juif comme un être inférieur. Il a fait abnégation absolue de son bien-être, sans tente, sans lit, presque sans bagage. Et sans lit, petite parenthèse, lorsqu'il reviendra à Paris, on le redira peut-être tout à l'heure, il ne pourra plus jamais coucher dans un lit normalement, tellement il aura été habitué à coucher à la dure, enveloppé simplement dans une grande gandoura. Et donc, cette habitude d'ascèse marocaine, ce noviciat profane, comme le dit joliment Luc Adrian dans un article de Famille Chrétienne de 2016, eh bien, il le gardera de retour à Paris, rue de Miroménil. Charles a embauché à ses côtés un juif authentique, donc un vrai quand même, qui va l'aider et lui donner les codes qui lui manquent un tout petit peu, comme catholique agnostique ayant perdu la foi qu'il est à ce moment-là, jeune homme de 25 ans, rappelez-vous. Et ce juif authentique, son guide, c'est un rabbin Mardoché. Tous deux endurent les dangers de la route et les brimades. Même les juifs qu'on tolère sont soumis au plus mauvais traitement, confie le voyageur. Parqués dans leur mela, donc la mela en marocain c'est un ghetto, faut être clair, ils ne peuvent en sortir sans être assaillis à coups de pierre. Et donc il a connu un peu la lapidation. Et donc, si cela n'a pas mérité la palme du martyr, comme saint Paul, lapidé plusieurs fois, eh bien, ça a probablement sculpté son âme et l'a aidé à sortir de sa gangue de confort et de fils à papa qui était la sienne. Il précise au début de son périple, sur tout le territoire des Akmas, personne ne passa près de moi sans me saluer d'un Halla hi ha hak buk hi el hi aoudi. Je ne sais pas s'il y a un arabe qui m'entend et peut-être que je prononce très très mal, mais cela veut dire, semble-t-il, que Dieu fasse brûler éternellement le père qui t'a engendré juif. Donc, un gentil compliment complètement antisémite des Arabes musulmans qu'il croisait dans ce Maroc des années 1883-1884. Donc, pas d'humilité sans humiliation, hein, vous savez que c'est une petite phrase de sainte Bernadette, et bien qu'il va vivre un peu violemment dans cette aventure marocaine. La leçon est rude pour Charles, qui découvre aussi les petitesses de la diaspora juive. Pour les Israélites du Maroc, dira-t-il, toute la religion est là. Les préceptes de morale, il les nie. Les 10 commandements sont de vieilles histoires, bonnes tout au plus pour les enfants. Quant à l'observation du sabbat, rien au monde ne les ferait y manquer. Voilà, donc il remarque que la population juive marocaine de ces années-là a un éloignement assez net pour l'immense majorité qu'il va fréquenter par rapport à la fidélité des 10 commandements et de tout ce que nous savons de l'Ancien Testament, mais le sabbat, il reste en honneur. Jamais fait plus que céder à la mode de l'orientalisme qui, vous le savez bien, sur un plan littéraire, sur un plan musical, sur un plan pictural, est très à la mode dans la France de ces années-là. Il embrasse le mystère de l'Afrique du Nord avec les armes du cartographe qui s'avance en des lieux encore vides et blancs sur les cartes. Et c'est ça justement qui avait piqué sa curiosité d'officier. En marche, dira-t-il, j'avais sans cesse un cahier de 5 cm carrés caché dans le creux de la main gauche d'un crayon long de 2 cm qui ne quittait pas l'autre main, je considérais ce que la route présentait de remarquable, ce qu'on voyait à droite et à gauche. Plus loin, il ajoute, jamais personne ne s'en aperçut, même dans les caravanes les plus nombreuses. Je prenais la précaution de marcher en avant ou en arrière de mes compagnons, afin que, l'ampleur de mes vêtements aidant, ils ne distinguassent point le léger mouvement de mes mains. La description et le lever de l'itinéraire emplissaient ainsi un certain nombre de petits cahiers. Et la nuit, Charles recopie ses observations prises à la hâte durant la journée. Bref, un travailleur infatigable, et on va voir les milliers de données qu'il va rapporter à la Société de géographie. Et je vous propose, pour méditer un peu cette aventure, un petit intermède musical de musique arabe un petit peu marocaine qui va essayer de nous plonger un petit peu dans l'ambiance de l'époque. Dans sa Reconnaissance du Maroc, publiée à son retour, le géographe montre aussi des talents d'écrivain. Je le cite. « Chechawen, enfoncé dans un repli de la montagne, ne se découvre qu'au dernier moment. Il était 6 heures du matin quand j'y arrivais. Les premiers rayons du soleil, laissant encore dans l'ombre les masses brunes des hautes cimes qui la surplombent, doraient à peine le fait des minarets. L'aspect en était féerique. » Et la géographie se mue en littérature et presque en religion, je le cite. « La plaine où je m'engage est immense », écrit-il sur la route de l'Alamarnia. « C'est un désert blanc. La surface en est ondulée. Le sol en est dur, tantôt sablonneux, tantôt pierreux. Le grand atlas est une longue chaîne brune à crête uniforme qui fuit vers l'Orient et s'abaisse de plus en plus. » Et une autre fois, il s'extasie. « J'arrive à l'Ouadra. La vallée apparaît comme une bande verte serpentant entre deux chaînes de montagnes. À mes yeux s'étendent des palmiers innombrables, mêlés de mille arbres fruitiers. Entre les branches, on aperçoit un ruban d'argent, les eaux du fleuve. Sur les fleuves, sur les rives, le fond de la vallée est un jardin enchanteur. Figuiers, tacoïtes, grenadiers s'y pressent et répandent sur le sol une ombre épaisse. » Donc vous vous doutez que ces descriptions à la fois techniques et poétiques vont enchanter la Société de géographie. De fait, de retour à Paris, c'est la consécration. Il reçoit la médaille d'or parmi les membres de la Société de géographie de Paris et Henri Duverrier, que nous avons écouté tout à l'heure, résume ainsi l'immense travail de l'explorateur. Un seul homme a repris, en les perfectionnant, 689 km des travaux de ses devanciers et il y a ajouté 2250 km nouveaux, évidemment qu'il a fait à pied la plupart. Pour ce qui est de la géographie astronomique, il a déterminé 45 longitudes et 40 latitudes, et là où nous ne possédions que des altitudes se chiffrant par quelques dizaines, il nous en apporte 3000. Donc vous vous doutez que c'est la gloire. Mais une autre exploration, tout aussi périlleuse, l'attend désormais. Pourquoi ? Parce que, retour à Paris, consacré pendant des mois à la rédaction de son livre, à partir de ses tout petits cahiers qu'il avait cachés dans ses mains, avec ses petits crayons, comme je le disais tout à l'heure, Charles se trouve un petit peu désabusé. Désabusé et sceptique, il a été fasciné par la rencontre de l'islam, il a été fasciné par la rencontre de la prière, et il dira ceci dans une lettre à Henri de Castries, le 8 juillet 1901. « L'islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi, de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu, m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occasions mondaines. Je me suis mis à étudier l'islam, puis la Bible. » Et néanmoins, cette étude et ce choc spirituel qu'il a vécu au Maroc le laisse un petit peu déboussolé de retour à Paris et ne sait plus quoi penser. Il connaît mieux l'islam et le Coran que l'évangile et son christianisme d'enfance qui était resté un petit peu élémentaire et trop peu argumenté. Et du coup, il arrive à une sorte de scepticisme en ne sachant pas quelle est la vérité. Il avait pensé se convertir à l'islam, mais il sent bien dans le Paris des années 1880 que ce n'est pas complètement à la mode. À la limite, s'il était resté au Maroc, il l'aurait peut-être fait, mais de retour à Paris, il est un petit peu perdu. Il a, de fait, vécu cette fascination pour la prière, pour l'islam, et je pense qu'il ne faut pas oublier combien c'est assez prometteur pour la France d'aujourd'hui, puisque nous avons énormément d'agnostiques autour de nous, de gens qui ont perdu la foi, et qui peut-être, au contact de musulmans très pratiquants, pourraient être mis sur le chemin de la prière, et petit à petit, du chemin de la prière, être mis sur le chemin du Christ. J'ai accompagné un jeune homme dans sa conversion, dont le premier choc spirituel a été, comme Charles de Foucault, la rencontre de l'islam, par la conversion à l'islam de sa propre sœur. Et donc il s'est dit, mais c'est pas possible, si elle se convertit à l'islam, c'est que Dieu existe peut-être. Et donc il s'est mis à fouiller dans ses souvenirs, il avait vaguement entendu parler de Jésus, il tape Jésus, évangile sur Internet, il tombe sur l'évangile de saint Matthieu qui l'a bouleversé. Et ce garçon que j'ai préparé au mariage et marié est aujourd'hui un chrétien fervent. Donc cette expérience de retour à la foi d'un agnostique ayant apostasié un petit peu son baptême n'est pas sans pouvoir raisonner et nous apporter quelques motifs d'espérance aujourd'hui. Deuxièmement, dans cette aventure marocaine, il a, j'ai beaucoup insisté, vécu l'ascèse et de fait, de retour à Paris, il prendra l'habitude de coucher par terre sans lit, enroulé dans sa gandoura. Et puis, troisièmement, son scepticisme et la possibilité, selon lui, qu'il serait difficile de rencontrer Dieu, va le poursuivre longtemps, jusqu'à ce que des rencontres mondaines et familiales le mettent au contact de beaucoup de femmes en particulier, qui sont des cousines ou des amies de sa sœur et de ses cousines, qui sont belles, intelligentes, riches et pieuses. Et alors, il y a quelque chose qui se creuse dans sa tête, il se dit, mais donc, il est possible d'être catholique sans être totalement idiot, il est possible d'être catholique sans avoir totalement abandonné un art de vivre qui lui reste cher, parce que l'ascèse n'a pas fait encore de lui totalement un ascète définitif. Parce que s'il est enroulé de sa gandoura, son appartement de Paris reste quand même très élégant. Et donc, la piété, l'intelligence et l'art de vivre de ces femmes en particulier le touchent. Et c'est l'une d'elles qui lui dit « Allez voir l'abbé Huvelin à l'église Saint-Augustin, il saura répondre à vos doutes sur la foi. Et au moins, essayez de rentrer dans des églises et de prier Charles. Et Charles, pendant des mois, dans ces mois donc, de 1884 à 1885, va rentrer dans des églises de Paris, un petit peu au hasard de ses promenades, et souvent prier en disant « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ». Une très très jolie prière que je vous encourage, chers amis auditeurs, à partager à des amis non-croyants que vous auriez, ou peut-être si vous m'écoutez avec des doutes, comme notre cher Charles l'a vécu, de ne pas hésiter à prononcer cette petite phrase « Seigneur, si vous existez, faites que je vous connaisse, je vous assure que c'est une prière que le Seigneur exaucera dans votre vie, comme il l'a exaucée dans la vie de Charles de Foucauld. » Il confiera un jour à une de ses cousines « Vous êtes heureuse de croire, je cherche la lumière et je ne la trouve pas. » Et donc cette prière, « Seigneur, faites que je vous connaisse si vous existez », le Seigneur ne va pas l'exaucer dans une seconde, dès la première fois qu'il l'a prononcée, mais il veut qu'il persévère, comme en chacune de nos prières. Et une de ses cousines, comme je vous le disais, l'invite à aller voir l'abbé Huvelin, qui a l'habitude de recevoir ses pénitents. Il passe une bonne partie de ses journées au confessionnal quand il n'est pas à donner des cours d'histoire de l'Église. C'est un homme brillant, un normalien. On lui avait proposé une chaire d'histoire de l'Église à l'Institut catholique de Paris. Il a préféré donner des petits cours très modestes à Saint-Augustin, à ses paroissiens, et à confesser, avoir une pastorale très humble. L'abbé Huvelin a vraiment laissé la réputation d'un grand intellectuel et d'un saint prêtre. Et Charles de Foucauld va longtemps hésiter avant de rencontrer celui qui allait devenir son père spirituel. Il hésite une dernière fois au seuil d'un jour aussi vertigineux, mais il reconnaît la silhouette du vicaire qui fait le guet devant un confessionnal comme une vigie tombée du ciel, étoile brillante qui semble l'attirer définitivement hors des ténèbres de l'incroyance, comme dit à nouveau le Samuel Pruvost, cette fois, que je cite dans cet article. Et là, on assiste probablement à un dialogue assez rigolo, parce que Charles va rencontrer l'abbé Huvelin pour demander un petit cours de catéchisme. Et donc, il se penche à la grille du confessionnal où l'abbé Huvelin se tenait pour attendre ses pénitents, en disant « Bonjour monsieur l'abbé, je suis le vicomte Charles de Foucauld, j'ai perdu la foi, je suis un ancien officier, est-ce que je pourrais vous poser quelques questions spirituelles et théologiques, s'il vous plaît ?» Et l'abbé lui dit « Confessez-vous d'abord et vous croirez. » Alors Foucault dit « Non, écoutez, monsieur l'abbé, je n'ai pas dû parler assez fort, j'ai perdu la foi, donc je ne suis pas du tout venu pour me confesser, mais simplement pour vous poser des questions. Confessez-vous d'abord et vous croirez. » Et d'après certains historiens, si ma mémoire est bonne, Charles de Foucauld aurait insisté une troisième fois, Huvelin a le culot de demander à son incroyant de se confesser alors qu'il n'est pas du tout venu pour ça. Je pense qu'il faut mesurer que ce saint prêtre, à ce moment-là, était réellement inspiré parce qu'il y avait de quoi faire fuir au galop Foucauld ou n'importe quel autre pénitent, mais il savait probablement que c'était la phrase qui allait mettre à genoux notre ancien osseur, notre aventurier du Maroc. Et de fait, en cette fin d'octobre 1886, c'était la phrase qu'il fallait pour Foucauld, pour l'ancien méhariste des oasis, qui s'était mis à lire quelques philosophes de l'Antiquité pour essayer d'apprendre un petit peu ce que c'était que la vertu, pour vivre là un événement extérieurement et intérieurement mystérieux, quelque peu intemporel, la date même exact de cette confession, Charles l'a oublié. On sait simplement que c'est à la fin du mois d'octobre 1886, donc quelques semaines seulement avant la grande conversion de Paul Claudel à Notre-Dame de Paris, le jour de Noël, et le même jour, la grande conversion de Thérèse de l'Enfant Jésus, qui va livrer sa course de géant. Et je ne vous cache pas, que cette coïncidence de ces trois conversions, de Thérèse Martin à Lisieux, de Claudel à Notre-Dame de Paris et de Charles de Foucault un mois et demi avant à Saint-Augustin de Paris, est quelque chose de vertigineux, tant ces trois personnalités vont avoir un impact considérable sur le catholicisme français. Et donc ce confessionnal va vraiment être la ligne de partage des eaux. D'un côté, la vie sans but d'un militaire désabusé, et de l'autre, l'homme de Dieu assoiffé de sainteté que nous pouvons admirer. Alors, il nous a raconté lui-même cet épisode, et je vais maintenant lui donner la parole. Une grâce extrêmement forte me poussait. Je me mis à aller à l'église sans croire, ne me trouvant bien que là, et y passant de longues heures à répéter cette étrange prière « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ». En me faisant entrer dans le confessionnal de l'abbé Huvelin, vous m'avez donné tous les biens, mon Dieu. S'il y a de la joie dans le ciel à la vue d'un pécheur se convertissant, il y en a eu quand je suis entré dans ce confessionnal. Quel jour béni! Et depuis ce jour, toute ma vie n'a été qu'un enchaînement de bénédictions. Vous m'avez mis sous les ailes de ce Saint-Augustin. Donc, je suis heureux, comme chanoine de Saint-Augustin, que ce soit dans une église sous le patronage de ce grand docteur de l'Afrique, justement, que Charles ait vécu sa conversion. Vous m'avez mis sous les ailes de Saint-Augustin et j'y suis resté. Vous m'avez porté dans ses mains depuis ce temps et ce n'a été que grâce sur grâce. Je demandais des leçons de religion, il me fit mettre à genoux et me fit me confesser et m'envoya communier, séance tenante. Je ne puis m'empêcher de pleurer en y pensant. Et je ne veux pas empêcher ces larmes de couler, elles sont trop justes, mon Dieu. Quel ruisseau de larmes devrait couler de mes yeux au souvenir de telle miséricorde? Que vous avez été bon, que je suis heureux, qu'ai-je fait pour cela? Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi. Dieu est si grand, il y a une telle différence entre Dieu et tout ce qui n'est pas lui. Quand Charles se relève de sa confession et on doute de toutes les turpitudes de gourmandise, de luxure avec les femmes, d'orgueil, de jalousie, de violence qu'il a dû confesser avec humilité, quand Charles se relève de sa confession, René Bazin, encore une fois son premier biographe et qui fut aussi son ami, conclut sobrement de sa conversion, il ne parle à point, à part les quelques pages que je viens de vous lire, ce fut à certains actes qu'on s'aperçut, et peu à peu, que le fond de l'âme était changé. La vie continua d'être laborieuse, la paix y était entrée, et elle transparaît toujours, dans les yeux, dans le sourire, ou la voix, ou les mots. La porte du confessionnal s'est ouverte sur un continent totalement nouveau, illimité, et à sa mesure, parce que l'explorateur est devenu adorateur. Et je vous disais en commençant que le désert avait été un petit peu son noviciat profane. Et je vais terminer un petit peu là-dessus avec un très beau texte de Charles sur le désert et l'importance du désert, de garder le silence du désert et du recueillement avec Dieu pour retrouver le Seigneur. Je cite Charles de Foucault pour terminer. « Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. C'est là qu'on se vide. » Qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide complètement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul. Les Hébreux ont passé par le désert. Moïse y a vécu avant de recevoir sa mission. Saint Paul, au sortir de Damas, a été passé 3 ans en Arabie. Saint Jérôme, Saint Jean Chrysostome se sont aussi préparés au désert. C'est indispensable. C'est un temps de grâce, c'est une période par laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement passer. Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé au milieu desquels Dieu établit en elle son règne et forme en elle l'esprit intérieur, la vie intime avec Dieu, la conversation de l'âme avec Dieu dans la foi, l'espérance et la charité. Et c'est dans la solitude, dans cette vie seule avec Dieu seul, dans ce recueillement profond de l'âme qui oublie tout le créé pour vivre seul avec l'union dans l'union avec Dieu, que Dieu se donne tout entier à celui qui se donne ainsi tout entier à lui. Le désert, c'est encore Charles qui parle là, hein, le désert n'est qu'un passage très court, un temps de purification et d'épreuve, tout plein de grâce infinie et sublime. Où l'on reçoit la loi de Dieu, on y célèbre son culte autant qu'on peut le célébrer sous la tente. On s'y nourrit d'un aliment céleste, le pain des anges, la manne, on n'y manque de rien. On y est vainqueur miraculeusement de tous ses ennemis, pourvu qu'on prie et qu'on obéisse au guide que Dieu nous donne. Et vous doutez que celui qui reviendra quelques années plus tard au désert et qui s'enfoncera très loin dans le Sahara jusqu'à Taman Rasset, eh bien, a vécu dans cette première expérience marocaine une rencontre de Dieu qui ne le lâchera jamais plus. Le confessionnal a évidemment été la rencontre décisive, mais tout cela a été préparé dans les déserts du Maroc. Et je vous encourage, chers amis, chers auditeurs, à, pour conclure, prier Charles Foucault pour tous ceux qui vivent aujourd'hui dans le scepticisme, dans la croyance, dans l'islam. Nous aurons toute une émission consacrée à Charles de Foucault et l'islam, mais nous savons bien combien nos chers frères et sœurs égarés dans cette religion tellement à la mode et tellement terrible aujourd'hui ont besoin de découvrir cette lumière. Et si l'islam a été pour Foucault l'occasion providentielle avec le désert pour revenir au Christ, à la Vierge Marie et aux saints et aux anges avant de devenir bientôt l'un d'eux, eh bien prions Charles pour tous nos frères qui en ont tellement besoin. Merci de votre attention.